Les premiers noms des polars étaient skinetics, donc l'éthique était pour nous presque plus importante que l'aspect polaire. On a juste compris que l'aspect polaire intéressait plus les gens il y a 15 ans que l'éthique. Donc on était précurseurs en fait, au niveau de la formule, à être les premiers à fabriquer des soins sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale. Donc ça, on le savait déjà. Et dans la dernière année, on a reformulé, je crois, 9 formules pour les rendre plus clean, jusqu'à 98% naturel, 99 je crois même, certaines formules. Donc on est extrêmement vigilant sur la formulation.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois un invité au parcours très atypique. Daniel Curbiel est enfant d'explorateur de l'extrême. D'ailleurs, à l'adolescence, les deux pôles n'avaient déjà plus aucun secret pour lui. Quelques années plus tard, il a créé Polar avec deux A, une marque pensée pour les hommes et que les femmes se sont très vite accaparées. Ah ah, comme quoi les histoires de genre en cosmétique. Polar, c'est vraiment une marque à part, ne serait-ce que par les ingrédients exceptionnels qui composent ses formules. Au fait, vous sentez le blizzard là ? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Daniel, vous avez eu une enfance pas banale puisque vos parents étaient explorateurs. C'était comment ?
Avoir des parents explorateurs ou avoir une enfance pas banale ?
Bah, un peu des deux.
Alors, je suis né en Pologne, je suis venu en France à l'âge de 15 ans où j'ai rejoint mon père qui en effet est explorateur polaire, ou était plutôt explorateur polaire. Et tout de suite, je les accompagnais pendant 5 expéditions polaires. Donc c'était génial, génial et en même temps pas génial, puisque passer 24 heures sur 24 avec ses parents quand on a 15 ans, il y a peut-être mieux à faire. Mais d'un autre côté, à regarder en arrière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que j'essaie de transmettre à mes enfants.
Et vous-même, à la fin des années 90, vous êtes devenu navigateur à votre tour. Vous avez parcouru le cercle polaire. Vous y faisiez quoi ? Vous faisiez des expéditions scientifiques ou c'était sportif ? C'était de la performance ?
J'avais deux vies au niveau de la voile, enfin au niveau de voyage. Une avec mes parents, où en effet on faisait des expéditions scientifiques et exploits, puisque un de nos équipiers était un illustre inconnu à l'époque qui s'appelait Nicolas Hulot. Et il travaillait à France Inter avant même qu'il travaille pour Ushuaïa, où on nous sommes passés plusieurs fois. Donc ça, c'était à la fois exploit, plus haut, plus loin, plus difficile, casser un record, découvrir quelque chose qui n'a pas été découvert, cartographier un pays qui n'a pas été cartographié, un bout de pays, puisqu'on a cartographié un bout de Groenland.
D'accord.
Et en même temps, quand je suis allé étudier au Canada, j'ai découvert que j'aimerais bien faire avancer le bout pointu du bateau un peu plus rapidement que ce que c'est lui qu'on faisait, puisque la différence entre la compétition et ce qu'on fait, c'est un peu comme, on va dire, un gros camion et une Formule 1. Et je me suis intéressé à la voile olympique, j'ai intégré l'équipe canadienne, ensuite à l'équipe française, je suis devenu champion de France, donc de voile olympique, et puis voilà.
D'accord. Et un jour, vous croisez une scientifique spécialiste de la végétation de l'extrême et tout de suite, vous pensez cosmétique ?
Pas du tout. Alors, en fait, Maria, c'était une de nos équipières aussi, puisqu'elle travaillait sur la pollution, les marqueurs de pollution contenus dans le lichen. Le lichen, c'est une symbiose entre une algue et un champignon, et c'est des super marqueurs de pollution, puisqu'ils absorbent énormément d'oxygène. Donc, et sur les bateaux, le bateau, c'est beaucoup plus petit que la salle où nous sommes, donc on se marche souvent sur les pieds, mais on est aussi assez proche, donc on échange beaucoup. Et elle m'a dit, écoute, la végétation polaire, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est très différent que dans les régions tempérées, soit ça mute pour être plus fort. Et puis c'est resté un tout petit peu comme ça pendant des années. Et un jour, où je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien lancer des soins, et j'aimerais bien lancer des soins pour hommes à l'époque. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas regarder en arrière, plutôt dans notre patrimoine, ce qu'on savait faire, l'expédition polaire, et trouver quelque chose qui pourrait aller là.
D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que sont nés les premiers premiers soins polars. Donc.
Exactement. Au début, on était une société qui est pour les hommes, hein, par les hommes ou presque. Parce qu'en fait, on avait une technologie, la Thalassocia antarctica, une algue, qui est beaucoup plus hydratante que toutes les autres algues. Et pour la peau de l'homme, c'était parfait, puisque la peau de l'homme étant plus épaisse, plus grasse, plus difficile à traiter. C'était super. Et puis ben, aujourd'hui, on a un peu inversé la tendance, où nous sommes à 97% une marque féminine.
Et alors, concernant justement les plantes utilisées dans Polar, qu'est-ce que ces plantes ont de si spécial par rapport à celles qui poussent dans les contrées, on va dire, plus tempérées ou plus chaudes ?
Alors, c'est comme j'avais dit plus tard, on a deux types de plantes. On a des plantes adaptogènes et les plantes extrémophiles. Donc certaines s'adaptent aux conditions extrêmes. Donc, par exemple, on va prendre un exemple d'une algue. La même algue qui aurait à Bénodet, une laminaire à Bénodet, elle serait concentrée à X% des vitamines B. Prenons un exemple des vitamines B. Eh bien, cette même algue, comme elle doit survivre à des conditions extrêmes du Grand Nord ou du Grand Sud, elle aurait 2, 3 ou jusqu'à 30 fois plus de concentration en éléments qu'une algue de Bénodet. Je vous donne l'olivier de Sibérie. C'est une famille des argousiers et pourtant, c'est 30 fois plus concentré en vitamine C qu'une orange.
Donc, oui, d'accord.
Et qui aurait pu penser qu'il y avait de la vitamine C dans les régions polaires.
Ouais, c'est clair.
Donc ça, c'est les plantes adaptogènes. Et les plantes extrémophiles, elles n'existent que dans ces conditions-là. Donc bien évidemment, elles n'appartiennent qu'à cet endroit-là.
D'accord.
Et ce que nous, on fait, on les prélève et puis on les conditionne dans les conditions similaires aux conditions du Grand Nord en France.
Et du coup, alors, ce sont des plantes sauvages ou elles sont cultivées, celles que vous utilisez dans les cosmétiques ?
Alors, ça dépend, puisqu'on a à la fois des micro-algues, des macro-algues, des plantes, et il y a différents traitements que nous faisons. Des micro-algues, tout simplement, c'est des algues quasi unicellulaires, enfin unicellulaires d'ailleurs, qui poussent à l'intérieur même des icebergs, c'est quasi invisible à l'œil nu. On les prélève et on les élève en France dans les conditions similaires aux conditions du Grand Nord.
D'accord.
Donc c'est extrêmement sustainable, on dit en anglais, donc durable. On ne pille pas l'Arctique, au contraire, on la protège. Ensuite, les macro-algues, certaines, on peut les prélever, et dans ces cas-là, et parfois faire une biosynthèse des éléments qu'elles contiennent, en France toujours.
D'accord.
Et certaines plantes, comme l'olivier de Sibérie, par exemple, ce sont des coopératives qui les cueillent, de la même manière qu'on cueille une pomme. Donc c'est de nouveau, c'est des récoltes annuelles et c'est quelque chose qui se passe tout à fait régulièrement.
D'accord, donc tout est sourcé, il y a pas de...
Tout est sourcé de façon éthique et de façon durable.
Ouais, d'accord. Pas de pesticides, pas de choses comme ça.
En Arctique, il n'y a pas de pesticides. Ouais. C'est le continent le plus pur. Il y a deux choses qui sont très intéressantes à propos de l'Arctique. L'Antarctique, donc tout au sud, elle est le seul continent au monde à être peuplé que des scientifiques. Il n'y a pas d'autres habitations. Et donc, c'est de là où vient notre savoir scientifique. Et l'Arctique et l'Antarctique, c'est avant l'arrivée de l'homme blanc, étaient les continents qui n'avaient pas de maladie. Il y avait zéro maladie. Et tout est comestible en Arctique, sauf les foies de l'ours. Donc, vous pouvez tout manger, tout ce que vous trouvez, et juste pas les foies de l'ours. Voilà. Mais bon, risque petit que vous alliez le faire.
Ouais. Et alors, certaines espèces ne sont-elles pas justement menacées par le réchauffement climatique, notamment par la fonte des glaces, la montée des eaux,
Non, à proprement parler, au contraire, on découvre de plus en plus d'espèces, puisque les zones se libèrent, hélas. Il faut voir que Greenland, ou Groenland, c'est vraiment une terre verte. On imagine des étendues monstrueuses de glace, mais les suds, par rapport à par exemple Islande, c'est vraiment la terre verte. Donc, sur ces prairies à l'intérieur des terres, il y a de plus en plus d'espèces qui arrivent à survivre parce qu'elles attendent des développements un peu plus longs avec les réchauffements climatiques. Et la fonte des glaces, bien sûr qu'il y a, et il y aura toujours, mais les glaciers sont tellement puissants et tellement développés que pour l'instant, avant quelques centaines d'années, nous n'avons pas de problèmes d'approvisionnement, en tant que marque, mais également il n'y a pas des ruptures des plantes, parce qu'en fait on puise des plantes qui sont très très anciennes, des micro-algues qui sont très très anciennes.
D'accord. Et vous utilisez dans certains produits l'eau des glaciers. Est-ce qu'elle est encore pure à l'heure où on parle de micro-particules de plastique retrouvées dans la glace des pôles ?
Oui, alors c'est une bonne question. Au fait, il faut imaginer que les plastiques ou les microplastiques, c'est à la surface de l'eau ou dans l'eau qu'il est contenu. L'eau des glaciers, ce n'est pas une eau fluide telle qu'on imagine. Ce n'est pas l'eau qui descend du glacier comme on pourrait voir dans les Alpes.
Ouais, ouais.
C'est vraiment des morceaux d'iceberg qui tombent à Ilulissat, qui est à peu près au milieu du Groenland. C'est la plus grande usine de fabrication d'iceberg au monde, puisque c'est en fait un glacier qui avance. C'est vraiment... C'est incroyable. Juste derrière, c'est l'Inland 6. Donc la partie sud du Groenland, c'est vert, mais la partie nord, elle est vraiment toute blanche. Et donc, ces icebergs tombent et ensuite fondent. Donc comme si on mettait un glaçon dans votre eau à nous. Donc ces glaçons-là, ils sont millénaires. Ils sont extrêmement vieux, parce qu'ils sont faits de la neige qui s'est accumulée depuis des millénaires, et c'est cette glace-là qui fond. Donc, à moins qu'il y ait eu des plastiques il y a des millénaires, non, il n'y a pas de plastique dans notre eau.
OK. Et où sont fabriqués les produits ?
Alors, tous les produits sont fabriqués en France. Nous avons trois laboratoires principaux avec lesquels on travaille. Donc, voilà, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, on a fait du Made in France, et depuis pas très longtemps, on communique là-dessus.
Ouais, ouais. C'est important.
Oui, je pense. Alors, on n'a pas voulu communiquer parce que pour une histoire de cohérence entre le monde polaire et le Made in France. Mais de notre côté, notre savoir-faire cosmétique en France est essentiel. Et puis, on a une société française, on a toujours été. Voilà, il y a juste mon accent qui ne l'est pas.
Bon, il est léger l'accent quand même. Alors, il y a de plus en plus de demandes pour des formules bio, des formules clean. C'est quelque chose, une chose à laquelle vous êtes sensible ou
Oui, depuis toujours. Les premiers noms des polars étaient skinetics, donc l'éthique était pour nous presque plus importante que l'aspect polaire. On a juste compris que l'aspect polaire intéressait plus les gens il y a 15 ans que l'éthique. Ouais. Donc on était précurseurs en fait, au niveau de la formule, à être les premiers à fabriquer des soins sans alcool, sans parabènes, sans huile minérale. Donc ça, on le savait déjà. Et dans la dernière année, on a reformulé, je crois, 9 formules pour les rendre plus clean, jusqu'à 98% naturel.
Donc d'accord.
99, je crois même, certaines formules. Donc on est extrêmement vigilants sur la formulation. Il faut que ça soit puissant, et nos actifs donnent cette puissance. Mais en même temps, il faut que ça soit doux.
Et est-ce que Polar a des engagements en dehors de la cosmétique, des engagements écolos, de préservation de certaines espèces ?
Oui, alors depuis toujours, nous avons sponsorisé ou donné de l'argent à l'Institut des mers polaires. C'était un organisme qui visait à mieux connaître les mers polaires et également à les préserver. Donc ça, c'était au niveau scientifique et également poursuivre la recherche scientifique à travers... à la fois Imerpol, mais on a travaillé aussi avec Ifremer et d'autres, CEVA, Centre de valorisation des algues, donc d'autres organismes de ce type-là. Ensuite, au niveau des... Moi, comme je fais pas mal de sports, je me suis intéressé à comment redonner au sport et transmettre, mais pas juste les sports pour les sports, c'était le sport pour surtout les femmes. Ce qui nous intéressait, c'est laisser les femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires.
D'accord.
C'est-à-dire, j'allais dire, des femmes comme vous et moi, qui ont un métier normal, et qui, les temps d'un exploit, réalisent quelque chose qu'elles ne pensaient pas faire, et Polar les aide là-dessus.
D'accord.
Et donc, et moi-même, je m'implique également, mais physiquement, dans la transmission du savoir sportif, parce que je pense que c'est une superbe école de vie. Donc voilà, on a sponsorisé des athlètes olympiques, on a sponsorisé les Vendée Globes, on a sponsorisé les traversées de l'océan, beaucoup de choses dans la voile et dans la nature.
Ouais. C'est logique. Et avec la Covid et le confinement, est-ce que vous avez remis certaines choses en question, que ce soit dans le développement de nouveaux produits ou autres ?
Alors, à la question « qu'est-ce que pensait de la Révolution française ?», Mao a répondu « il est trop tôt pour en parler ». Et c'était 200 ans après.
Oui.
Ce qui vous prouve la patience chinoise.
C'est clair.
Alors, est-ce qu'on a remis certaines choses en place ? Oui, en tant que société, bien sûr. Déjà, nous étions sur un mode de consommation beaucoup plus durable, toujours. Mais je pense que J'ai bien peur en disant ça que Covid n'est fait que commencer. Les mutations de notre société, on va les voir sur la prochaine dizaine d'années qui vient. Donc je pense que des marques comme Polar, qui ont déjà été éthiques, qui ont été proches des employés, proches des clients, on est déjà dans la bonne tendance. Celles qui ne sont pas, va falloir qu'elles s'y mettent.
Ouais.
Là, ce qu'on a mis un peu plus en place également, ce qui est dommage et en même temps génial, c'est notre présence digitale. On faisait déjà 33% de notre chiffre d'affaires sur le digital. Là, je pense qu'on va franchir la barre des 50.
Ouais,
donc,
ouais.
Mais de notre côté, on adore nos clients, on adore les voir. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise, mais c'est une bonne tendance, je pense.
Est-ce que justement, vous avez eu plus de contacts clients pendant la période du confinement ? Parce que je sais que certaines marques ont eu affaire à leurs clients par téléphone, via Internet. Et du coup, elles ont senti comme un rapprochement et un retour justement à l'humain, quoi.
Alors, nous avons eu bien sûr pas mal d'échanges par email, surtout pas de téléphone, donc que je sache, enfin très peu par téléphone. L'email est quand même les centres des contacts privilégiés.
Ouais.
Ce qu'on a essayé de faire pendant cette crise du Covid, pendant le confinement, c'est de se rapprocher des clients et parler tout à fait d'autre chose que des Polar. Je pense que c'était très bien que les gens achètent des crèmes, ça nous faisait extrêmement plaisir, on faisait aussi bien qu'on pouvait pour livrer malgré les conditions. Mais également, Sophie, qui est notre gourou marketing, a mis en place une communauté, enfin une gestion de la communauté autour du bien-être, autour des recettes, autour des entraînements, autour de tout à fait autre chose que juste acheter de la crème. Également, nous avons eu, en tant que marque, ça fait longtemps qu'on donne des produits à but caritatif et bien évidemment, tout de suite, comme on sait qu'on a des super produits très soignants, notamment notre crème de Laponie pour les mains, c'est vraiment un produit génial pour les mains. On savait que la solution hydroalcoolique est indispensable et on a donné presque la moitié de notre stock pour... pour les personnels soignants avec un peu plus d'une trentaine d'hôpitaux.
D'accord.
Qui ont reçu nos produits. Et assez tardivement, nous avons communiqué là-dessus. Par une espèce de... Enfin, je suis un très mauvais communicant.
Pudeur.
Je trouve que c'est ce que je disais, c'est que... J'avais... C'était la bonne chose à faire, alors pourquoi le dire ?
Donc,
et puis on l'a fait, on a communiqué une fois dessus, et puis après on l'a mis dans notre signature, mais c'est resté comme ça. Et puis s'il faut redonner à la société, on redonnera.
Et c'est quoi l'avenir, alors, pour Polar ?
C'est toujours comme donc à venir, c'est déjà remonter la pente du Covid parce que je pense que c'est un peu rude. C'est à extrêmement court terme.
Ouais.
Mais ce qui est génial, c'est que il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça, nous avons eu une réunion de développement et on a des super produits qui vont sortir. C'est vraiment super et puis des nouveaux pays qui continuent à s'ouvrir. Ouais. Donc continue sur cette ligne droite qui est une bonne ligne, c'est-à-dire va devenir le référent du polaire, ça, on l'est déjà depuis toujours, on est un peu l'Occitan en Arctique, mais également toujours le leader de cette marque engagée, naturelle, proche des clients, proche de la terre. Donc, voilà.
Et pourquoi Polar avec deux A ?
Parce que 2A, pour nous, c'est Arctique et Antarctique. Et également, ça fait référence aux écritures scandinaves qui font toujours double A. Et ce qui est intéressant, c'est que le petit point renvoie aux écritures inuites qui utilisent ça dans leurs écritures. Et également, le logo est coupé comme si c'était des icebergs qui sortaient de l'eau.
Ah, d'accord. On sait tout maintenant. Merci, Daniel.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.